10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à midi dans l'émission Les Engagés. Une émission qui va être riche encore aujourd'hui puisque nous allons revenir sur ce qui s'est passé au cours de l'année 2022. Vous savez, nous sommes le 16 décembre. On va vite arriver vers les fêtes de fin d'année sur 2023. Et on avait envie aujourd'hui avec notre équipe, Zora à la réalisation, Loupineda et Fodil Belhamri, les deux journalistes qui m'accompagnent, vous le savez, pour préparer cette émission. On avait envie de faire une forme de rétrospective sur 2022. Et dans la même émission, au cours de la deuxième heure, on avait envie de se projeter sur 2023 avec les grands enjeux qui nous attendent. Mais avant. De parler de ce qui s'est passé en 2022, on va parler de ce qui s'est passé avant-hier. Et avant-hier, c'était France-Maroc. France-Maroc, les amis. France-Maroc avec cette demi-finale de Coupe du Monde au Qatar, dont tout le monde nous disait cette Coupe du Monde, ça va être un fiasco, va être boycotté. Le Qatar n'est pas fait pour organiser une Coupe du Monde. Tout le monde nous dit que cette organisation, elle est au cordeau. Que ça se passe super bien, en matière de sécurité, de fluidité dans les allées et venues autour des stades, d'ambiance. Et puis, le boycott, ben on repassera. Hein. Parce que quand on regarde les chiffres des Français qui ont suivi France-Maroc, les amis, c'est un record. Record pour TF1. Plus de 20 millions de téléspectateurs pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Depuis 2006, sur un match de Coupe du Monde, on n'avait pas eu une telle audience. Donc, les appels au boycott n'ont pas été suivis. Alors, je vais vous présenter nos invités, mes amis, parce que on va évoquer avec eux tous ces sujets au cours des deux heures qui nous attendent. Michel Taub est avec nous, il est éditorialiste. Les auditeurs de Beurre FM le connaissent, Michel Taub, parce que il vient tous les vendredis dans l'émission d'Adil Farkan, notre ami, donc qui anime l'émission Les Informés tous les soirs. Il est fondateur du site Opinion Internationale, Michel. Michel, merci d'être avec nous ce matin.
Merci pour votre invitation, Karim, c'est vraiment une joie d'être avec vous.
On est très heureux de vous avoir.
D'autres cadres et je suis très content de retrouver votre punch.
Merci beaucoup.
À l'antenne de Beurre FM.
Merci beaucoup, Michel. Merci. Et nous avons en face de vous, Michel, un consultant, ancien commandant de police, commandant divisionnaire, ancien syndicaliste dans la grande maison de la place Beauvau, que j'ai bien connu lorsque j'étais conseiller du ministre de l'Intérieur, Charles Mendès. Bonjour, Charles.
Bonjour, Karim.
C'est une première pour vous, je crois.
Ah, c'est une fois arrivé à 61 ans pour faire une émission de radio. Vous m'y avez. Merci pour votre invitation. Et c'est une première, donc je vous demande d'être indulgent avec moi.
Non, mais il n'y a aucun souci. Moi, j'ai souhaité que vous soyez avec nous. D'abord parce que vous êtes consultant, je l'ai dit. Vous intéressez à tous les sujets de société. Et vous allez nous faire bénéficier de votre expérience. D'ailleurs, France-Maroc, je vais vous poser une première question avant qu'on parle de la liesse, du match, de ce qui nous attend derrière. Sur les enjeux de sécurité. Il y avait beaucoup d'inquiétudes avant le match. Tout le monde disait, qu'est-ce qui va se passer après cette demi-finale? Est-ce que ça va être la liesse populaire? Est-ce qu'on va avoir droit à une forme de guérilla urbaine? J'ai envie de dire, certains l'ont même souhaité. Et je le dis très clairement, parce qu'on avait des gens qui appelaient presque à ce que ça se passe mal. Il y a des positions qui sont parfois lamentables, on le sait, dans les médias dans notre pays. Sur le plan sécuritaire, Charles, ça s'est plutôt bien passé.
J'ai envie de dire, pour reprendre votre expression, effectivement, il y a des surenchères médiatiques, les uns et les autres ont leur petite histoire à raconter avec leur boule de cristal. La police a fait de la police. Quand on fait de la police, on s'extrait de toutes ces problématiques politiques. Le renseignement a fait son travail. Effectivement, il y avait des craintes. Et le préfet de police a mis un dispositif adapté à cette frange de la population qui n'aime pas le foot, mais qui se saisit de ces occasions comme d'autres pour venir casser, se défouler. Et donc, un dispositif qui a été efficace et qui a permis aux vrais supporters, ceux qui aiment le foot, comme moi...
Qui sont ultra majoritaires.
Et qui sont ultra majoritaires. Ouais. On parle toujours de cette petite bande, là, comme on a vu au Stade de France. Ouais. Malheureusement, c'est ces gens-là qu'il faut contenir. Et là, le service Alors, on pourrait discuter combien de policiers, etc. Mais on adapte son dispositif en fonction des risques. Et c'est pas n'importe quel match de foot, c'est la demi-finale. Donc, on a mis un dispositif, le préfet de police avec la DOPC, la DESPAP, tous les services de renseignement. Il y a eu un travail de fait efficace. Et ça a permis, effectivement, de permettre aux gens de fêter la victoire. Il y a même de la fraternisation. On regrette malheureusement ce gamin qui a été écrasé.
Ah oui.
Ça,
ah
c'est
oui.
terrible.
À Montpellier, c'est terrible.
C'est une chose à retenir,
on a une pensée pour la famille. Voilà. Condoléances à la famille, effectivement, cet enfant qui s'est fait écraser, hein, on va le dire.
Donc, écrasé.
Donc par un véhicule qui a été en fuite. Le véhicule a été retrouvé. Une enquête est en cours. On a une pensée pour la famille, évidemment. C'est dramatique. Un soir de fête, perdre son enfant de 14 ans, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Michel, le regard de l'éditorialiste sur cet après France-Maroc, on va revenir sur le football, la victoire de l'équipe de France, mais les craintes qui existaient, et finalement, cette liesse populaire, on a vu des drapeaux français, marocains s'entremêler, on a vu des gens se tomber dans les bras les uns des autres, on a entendu des Marocains dire maintenant mon équipe, c'est l'équipe de France que je vais soutenir en finale. Certains nous prédisaient le pire. Finalement, je veux dire, on a des prophètes du malheur dans notre pays comme le disait Charles Mendès, ont la mauvaise boule de cristal apparemment.
Alors, il y a deux choses. Sur l'aspect sécuritaire, d'abord, il y a eu des violences urbaines. Il y en a eu trop, il y en a toujours trop. Après, c'est pas effectivement le fait le plus important de cette soirée. La preuve, c'est que pour la finale de dimanche, où il n'y aura pas le Maroc, il n'y aura pas un pays africain, il y a 12 800 policiers qui ont été mobilisés pour assurer la sécurité de la finale. Donc ça veut bien dire que... C'est pas le Maroc. Le problème, c'est un événement sportif ultra populaire qui, évidemment, est l'occasion pour des délinquants, des footeurs de... Enfin, excusez-moi, je ne vais pas être grossier, mais voilà, donc c'est pas... Pour moi, il n'y a pas de relation. La vraie relation, c'est que effectivement, quand il y a des grands événements sportifs, il y a malheureusement des débordements de quelques cas qui ne sont pas si isolés que cela, je pense qu'ils sont assez nombreux, mais qui ne sont pas représentatifs et heureusement de la société française. Le deuxième point, c'est que moi, je suis allé voir la demi-finale chez des amis marocains.
Oui, vous êtes d'accord proche du Maroc, hein, Michel?
Je suis proche.
Non, mais je veux dire, c'est vous pas. Savez, vous écrivez dans l'opinion internationale, prenez des positions.
Il y a beaucoup d'Algériens qui ont soutenu le Maroc en demi-finale.
Ah non, mais
tout le peuple algérien.
Le continent africain était derrière le Maroc.
Exactement. Donc, si vous voulez, moi, je suis l'ami de tous les peuples, pour autant qu'ils respectent l'autre. Et je pense que c'est le cas de la plupart des peuples. Non, oui, je suis un ami du Maroc. Je suis. Comment dire? Je trouve que cette demi-finale. Et le fait que le Maroc, mais ça rappelle la Tunisie, qui a aussi participé à la Coupe du Monde.
Et qui a battu la France.
Absolument, qui a battu la France. Est tellement représentatif du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire un monde dans lequel vous avez plein de brassages, où vous avez la diversité, où vous avez... La France, c'est aussi cela.
Oui, mais Michel, ça gêne, ça. On a l'impression aujourd'hui, dans le débat public, et l'éditorialiste, je voudrais qu'il réagisse là-dessus, et que Charles Mendès nous donne son avis aussi, donc on a l'impression que la diversité de la société française pose problème. Il y a des gens aujourd'hui qui vous expliquent que il y a eu des débats sur les prénoms, il y a eu des débats sur la religion, il y a eu des débats. On a l'impression que les déterminismes qui font que l'on est français ou pas posent problème à certains.
Mais on ne va pas se cacher.
C'est une réalité.
On ne va pas se cacher. Moi, en tant qu'éditorialiste, dans mon journal Opinion Internationale, sur CNews où il m'arrive d'être très souvent, j'ai mes convictions. Mes convictions, c'est que on peut être à la fois fier d'être un pays de brassage, que la diversité fasse partie de notre société intimement, et en même temps condamner des excès de l'islamisme, du communautarisme et du séparatisme de certains, mais c'est pas la même chose. Donc moi, j'ai aucun problème à dire que la France est une société diverse, et ce match en a été le reflet, parce qu'il y avait beaucoup de binationaux dans l'équipe du Maroc.
Ça vous dérange les binationaux?
Mais pas du tout.
Non, mais ça aussi, comment, ça fait des débats que nous devons avoir pour aussi répondre à ceux qui veulent nous expliquer qu'être binational, ça pose problème. On peut aimer la France et être fier d'être français et être fier d'être d'origine tunisienne, marocaine, algérienne, congolaise.
Mais comment pourrais-je
l'être autrement? On peut être fier
des deux
ou pas?
Comment pourrais-je l'être autrement? Mon épouse, qui malheureusement n'est plus de ce monde, est tunisienne, musulmane. J'ai une fille qui est binationale. franco-tunisienne. Donc comment pourrais-je être contre la diversité ? En revanche, ce que je pense, je le dis en même temps, c'est que évidemment, lorsqu'il y a dans certaines communautés des dérives sectaires, extrémistes et islamistes, pour dire les choses, ça je les condamne avec la plus grande
fermeté. Mais on condamne tous les extrémismes, voilà, Michel. Mais, l'ultra-droite mais ça, qui est sortie dans la rue après France-Maroc et qui a été faire des ratonnades et aller chercher de l'arabe pour le casser dans les rues, pour le dire clairement, parce que si vous regardez Lyon Mag, qui est un magazine qui a fait une enquête là-dessus, on avait des gens cagoulés par groupe de 30 à 40 de l'ultra-droite, de l'extrême droite, qui se prétendent aimer la France, ils n'aiment pas la France. Ces gens-là, ils veulent le chaos, puisqu'ils sont allés effectivement semer le trouble et chercher la bagarre. C'est ultra-droite, Charles Menel, la police en a arrêté une trentaine. Donc moi, la police républicaine, voilà pourquoi je l'aime. Parce que la police républicaine, elle fait pas différence dans les extrémismes. Elle arrête les uns et les autres. Peu importe qui vous soyez, peu importe d'où vous venez, quand vous n'êtes pas respectueux des lois de la République, la police nationale est là pour vous le rappeler.
Vous avez raison, Karim. D'ailleurs, rappelons récemment, le GUD a été dissous. Ces factions d'extrême droite sont suivies
par Génération Identitaire aussi, par Darmanin, il n'y a pas longtemps.
Exactement. Donc le travail est fait de ce côté-là. Il est fait des deux côtés, d'ailleurs. Tous les extrémismes, il faut les combattre. Et sans pitié. Je vais revenir sur les violences urbaines. On se rend compte, et je rejoins ce que dit Michel et Karim aussi, vous avez raison, le problème dans cette demi-finale, c'est pas le Maroc, comme au Stade de France, c'est pas les Anglais. On a une espèce de voyoucratie de la banlieue, et celle-là, elle n'a pas de nationalité, cette voyoucratie. Elle vient pour casser, pour dépouiller.
Et donc, souvent elle est française. Ouais, d'ailleurs,
c'est
je
vrai.
Précise.
C'est
excusez-moi
vrai.
Pour interrompre, mais souvent elle est française.
C'est vrai. Non, mais Michel a raison.
Problème,
donc sur les
dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Sur les 110 interpellations qu'il y avait eu, sur les 110 interpellations qu'il y avait eu lors du précédent match du Maroc, 98, je crois, étaient français. Alors après, certains vont aller nous dire, oui, mais français issus de l'immigration. Attendez, français point.
Ouais, moi, je suis issu de l'immigration polonaise et portugaise. On est tous issus de quelque part.
Exactement.
Donc, c'est pas le sujet. C'est qu'il faut voir concrètement comment ça se passe, les mouvements de foule, qui vient, ils viennent de où, pour faire quoi. Ce sont pas des supporters marocains. Bon, il y a certains qui sortent le drapeau, il y a de l'ambiance, etc. Mais ça, c'est les matchs de foot. Moi, je me rappelle en 98, j'étais sur les Champs-Élysées. Il y avait une ambiance, c'était Black Blanc Beurre. C'était fantastique. Bon, et il y avait toujours, et même déjà à l'époque, certains qui venaient se faufiler pour essayer de dépouiller, pour essayer de casser. Ça a toujours été, et c'est ça notre travail, il est là, et c'est le dispositif qui a été mis en place, c'est pour ces gens-là.
Mais comment on fait comprendre à ceux qui aujourd'hui ont des tendances un peu extrémisme dans leur pensée en France que notre combat doit se focaliser contre les délinquants, contre les islamistes, contre l'ultra-droite, l'extrême droite, et pas contre les jeunes de banlieue, les musulmans, les Français qui ont le droit de voter pour qui ils veulent à partir du moment où ils sont pas violents. Je veux dire, on a une confusion dans le pays, je dirais, qui provoque des amalgames un peu faciles. Michel, c'est un vrai débat, ça, qu'on doit avoir. Je veux dire, combattre les délinquants, évidemment. Vous pensez qu'en banlieue, les délinquants emmerdent que les franco-français de souche depuis 40 générations, les premiers qui sont embêtés par délinquance en banlieue, c'est les habitants de banlieue.
Les premiers qui se font brûler leur voiture, c'est eux.
C'est les habitants de banlieue, et qui sont victimes de trafic de drogue, qui peuvent pas laisser leurs enfants les jouer en bas. C'est qui? C'est les habitants de banlieue. Là, quand il y a un drapeau français qui est brûlé, qui on va pointer? Les supporters marocains, on va dire, vous avez les supporters, mais c'est pas les supporters marocains, c'est quelques imbéciles, et je suis poli, parce que j'aimerais en dire plus, qui brûlent un drapeau, qu'il soit français, qu'il soit même israélien, d'ailleurs, on a vu des drapeaux israéliens brûlés. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Alors, vous pouvez critiquer une politique d'un gouvernement, à l'évidence. Vous pouvez vous sentir sensible à la cause palestinienne, d'être pro-palestinien, mais respectez les drapeaux. Tous les Israéliens ne sont pas, je dirais, des gens à mettre dans le même sac là aussi. Je veux dire, moi j'aime bien qu'on fasse preuve de discernement. Je trouve que le drame de notre vie politique aujourd'hui, vie sociétale aujourd'hui, avec les débats que Michel évoquait sur les chaînes info et toutes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, on manque de discernement. Pourquoi on manque de discernement, Michel?
De nuances.
De nuances.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, le combat, comme vous l'avez fort justement dit, et je salue tout ce que vous venez de dire, il est, s'il y a un combat, en tout cas, moi, c'est celui que je mène dans mon journal, c'est celui contre l'islamisme, qui, lui, est selon moi, une perversion de l'islam. Et là, malheureusement, en France, vous avez beaucoup de... Comme je dis souvent, moi, ça me fait mal au cœur. Alors, excusez-moi pour les auditeurs de Beurre FM, certains vont peut-être s'en offusquer, mais croyez bien que je le dis avec beaucoup de bienveillance. Mais moi, ça me fait mal au cœur lorsque je vois des jeunes femmes françaises décider de porter le voile, alors qu'en Iran... Vous avez les femmes iraniennes.
Michel, n'ouvrez pas
contraire.
Ce débat-là, Michel. Mais, le débat qu'on doit porter, c'est le combat, c'est le combat pour la liberté, Michel.
Non.
C'est la liberté. Une femme qui porte le foulard de sa libre conscience, Michel, n'allez pas la juger.
Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est pas le sujet de ce match.
Ouais.
Le sujet de ce match, France-Maroc, c'est de reconnaître que, en fait, il est le reflet. Ce match est le reflet d'une réalité française, qui est qu'aujourd'hui. Vous avez de la diversité et dans l'équipe du Maroc et dans l'équipe française. Et d'avoir un pays africain arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde de foot.
C'est fabuleux.
C'est fabuleux. C'est le reflet aussi. En fait, le football, plus que les autres sports, selon moi, j'adore le rugby, j'adore le tennis de table, il y a d'autres sports que j'adore, mais le football. C'est plus que les autres sports, le reflet de notre société.
Avant qu'on parte, en publicité, dites-nous un mot, Michel, sur le parcours de cette équipe marocaine. Fabuleux.
Extraordinaire. C'est à la fois une équipe qui a été excellente sur le plan du jeu, excellente, même techniquement, et qui en même temps a fait preuve d'un cœur et d'une énergie absolument fantastique qui fait qu'ils ont soulevé des montagnes. Et c'est vraiment voilà,
historique.
Et puis l'entraîneur, moi j'aimerais saluer l'entraîneur de l'équipe du Maroc qui est arrivé
Walid Regragui,
un peu en pompier de service.
Garçon qui vient du 91.
Exactement, mais c'est un Français.
Et hein, voilà.
Il est aussi Français. Je me rappelle, vous savez, la finale de la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique des Nations,
oui.
Il y a 3-4 ans. C'était la finale Sénégal-Algérie. Et je me rappelle, j'étais sur une chaîne de télévision, pour ne pas la citer, qui s'appelle BFM TV. Et on avait passé la soirée à expliquer, justement, que c'était quelque part une victoire aussi pour la France, parce que les joueurs,
beaucoup
la
de
moitié
binationaux.
Des joueurs des deux équipes étaient binationaux.
C'est une
et donc,
force.
Soyons fiers aussi de ce rayonnement de la France.
C'est une force, il faut qu'on en fasse une force des deux côtés de la Méditerranée. Charles, un mot avant qu'on parte en pause sur le parcours de cette équipe du Maroc. Parcours historique, on le rappelle. Il n'y a plus de complexe pour une équipe africaine aujourd'hui.
Non mais c'était moi je suis fan de foot donc et je regardais en plus j'étais content de voir Hakimi aussi parce que je le suis gros PSG donc c'est un parcours fantastique. Ils sont épuisés à rencontrer des grosses équipes et ils ont pas été ridicules du tout face à la France. Ça a été un beau match, un super match et à la fin vous voyez sur le stade tout le monde il y avait une fraternisation, je voyais Giroud qui allait prendre dans les bras l'entraîneur. Voilà, c'est ça les vraies images. Je vais revenir si vous me permettez.
Non, après la pause. Vous savez.
Non, mais.
C'est votre première émission de radio, voilà. Vous allez voir. Il y a des pauses de temps en temps. C'est important. Petite pause, les amis. On revient dans quelques minutes. Restez fidèles à Beurre FM. Et surtout, composez le 01 53 48 3000. Venez témoigner sur l'antenne de Beurre FM. Dites-nous, ce France-Maroc, qu'est-ce que vous en pensez? La binationalité, les débats qu'il y a eu. Donc, on veut vous entendre. À tout de suite, les amis.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour dans les engagés, les amis. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur l'antenne de Beurre FM. Nous débattons de l'actualité. On a abordé au cours de ce premier quart d'heure, comme dans les matchs de foot, vous savez, premier quart d'heure, dernier quart d'heure, temps additionnel. On va la faire comme ça maintenant, dans les engagés. Là, on pourrait être plus sérieux, donc on reprend après cette pause avec un drame qui nous a tous interpellés ce matin. Un drame qui s'est déroulé à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Vaux-en-Velin, donc dont la mairesse est Hélène Geoffroy, qui est un cadre éminent du Parti Socialiste, qui a vu sur sa commune, sur sa ville de Vaux-en-Velin, un drame tout à fait dramatique, un drame 10 morts, 5 enfants, un immeuble qui a pris feu, un incendie, vraisemblablement. Je me tourne vers Charles Mendès. On n'a pas beaucoup d'éléments à ce stade, c'est toujours pareil, il y a une enquête qui est en cours. On a une pensée évidemment pour les 10 morts, les 5 enfants. C'est inouï, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mots.
Oui, Karim, c'est malheureusement historique hein, pour l'agglomération de Lyon. C'est un incendie quand même terrible. 10 morts, donc 5 enfants, c'est terrible. Alors, c'est un incendie. J'ai écouté ce matin un petit peu la déclaration du ministre de l'Intérieur. Le feu part de la cage d'escalier. Donc, bien évidemment. Il va y avoir une enquête, il faut laisser faire l'enquête, et surtout l'identité judiciaire hein, qui va faire le travail pour essayer de déterminer les causes. Et après, c'est les fumées qui montent. Et les fumées qui montent, et donc ça c'est terrible pour quand un feu se déclare par le bas, et là en 30 secondes on meurt. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 10 morts. Et donc c'est quelque chose de terrible. Attendons les résultats de l'enquête. Je crois que le ministre a annoncé qu'il se déplaçait, il doit être sur place déjà. C'est quand même pour le quartier, ça va être terrible. Pour la ville, pour l'agglomération, c'est un drame.
Michel. Oui, c'est le ministre du Logement, Olivier Klein, qui est sur place présentement. Et c'est... il faut... Moi, je pense beaucoup aux enfants. D'ailleurs, même le recteur de l'Académie de Lyon s'est exprimé pour assurer qu'il apporterait son soutien. Il y a une école élémentaire et un collège proche de l'immeuble où ils ont mis en place déjà un dispositif d'aide psychologique parce que c'est un drame. Enfin, 5 enfants, on n'a pas vu ça depuis. Et puis je pense aussi à Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, et à travers elle, évidemment, à tous les habitants qui doivent actuellement vivre une véritable tragédie. Donc c'est voilà.
Effectivement une pensée pour encore une fois pour la famille, ceux qui sont partis dans ce drame horrible. Et on n'a pas de mots. On n'a pas de mots dans ces moments-là. Et effectivement, on y reviendra certainement sur l'antenne de Beurre FM avec plus d'éléments tout au long de la journée. Adil Farkan ce soir réabordera le sujet avec plus d'éléments. D'où provient cet incendie, quelles sont les causes. Humainement, il n'y a pas pire. On poursuit notre émission avec ce France-Maroc et on a un auditeur, Karim, qui nous appelle, Karim, du 93. Bonjour Karim.
Alors bonjour, c'est un Karim qui appelle à l'autre Karim.
Oui, Karim qui parle à Karim. Donc, c'est la France d'aujourd'hui, même s'il y en a certains qui doivent grincer des dents. Et c'est comme ça.
J'ai appelé pour ça parce que j'ai entendu des débats vraiment nauséabonds. J'ai entendu quelqu'un qui disait, vous comprenez, je suis passé à Gennevilliers, j'ai vu des drapeaux marocains, c'était plus la France. Ça veut dire qu'en gros, nous, les binationaux, on n'a pas le droit de soutenir le pays de nos parents, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on doit tout le temps, matin, midi et soir, été, printemps, automne, faire allégeance. On devrait nous forcer à porter une croix sur laquelle aurait marqué « Je suis patriote, bien que je ne sois pas blanc ». Parce que au rythme où ça va, on doit tout le temps se justifier. Et moi, j'en ai ras-le-bol, à tel point que je suis pour l'Argentine et je ne soutiens plus du tout l'équipe de France parce que j'en suis écœuré.
Et Karim, c'était très bien jusque-là. Donc, non, mais je vous le dis, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que on peut comprendre votre exaspération. On peut la partager. Et je suis le premier à dire que moi qui ai grandi avec des gens d'origine italienne, donc ils étaient comme mes frères, j'allais manger les pâtes chez eux, ils venaient manger le couscous chez moi. Je pense à la famille Licata, pour ne pas la citer. Donc c'était 4 frères. Quand il y avait France-Italie, ils sortaient le drapeau italien, ils étaient pour l'Italie. Jamais personne ne leur a reproché quoi que ce soit. Pareil pour les France-Portugal, quand les Portugais sortaient les maillots portugais. Donc pareil pour la Pologne dernièrement. Ouais, j'ai vu des Polonais, des Français, pourtant c'est pas une immigration récente. Ils avaient leur cœur qui chavirait pour la Pologne. Mais ça, on n'a pas à leur reprocher. Ça n'en fait pas pour autant des mauvais Français, de ces Italiens, de ces Portugais, de ces Polonais. Pourquoi, quand c'est des Français d'origine maghrébine, on va pointer effectivement cette question comme un problème? Vous avez raison de le souligner. Par ailleurs, ça ne doit pas vous rendre, je dirais, aigri en disant « Je souhaite la victoire de l'Argentine, mon cher Karim ». C'est là où après, derrière...
Non, mais j'en suis fatigué.
Oui, mais fatigué, mais de ceux qui vous mettent dans cette position. Mais qu'est-ce qu'a à voir l'équipe de France, qui est à l'image de la France, d'ailleurs, cette équipe de France? Qu'est-ce qu'a à voir Didier Deschamps? Qu'est-ce que nous avons... Mais il faut souhaiter la victoire de notre pays, parce que c'est notre pays, la France, Karim. Il faut pas qu'on ait de complexe à le dire, même si certains voudraient effectivement nous pointer du doigt et nous mettre en difficulté sur cette question. Nous n'avons pas de difficulté. Fier d'être français, fier d'être marocain, tunisien, algérien, peu importe.
D'accord, mais est-ce qu'on peut, dans ce pays qui est prétendument les droits de l'homme, être pour l'Argentine?
Mais bien sûr que vous pouvez être pour l'Argentine. Mais
bon, alors moi c'est mon cas.
Mais, non, d'accord, mais ne justifiez pas ça comme, j'ai envie de dire, une forme de revanche vis-à-vis de ceux qui ne vous reconnaissent pas comme un Français. Ça doit pas se situer là. Si vous êtes pour l'Argentine, c'est parce que vous aimez Messi, parce que vous êtes un amoureux du football argentin. Expliquez-le comme ça.
mais c'est pas un combat contre la France.
Moi,
je
pense que on va
non, mais on va faire réagir nos intervenants, Karim. Restez avec nous parce que c'est intéressant ce que vous soulevez comme débat. Michel, la réaction sur Karim, ce qu'il nous dit.
Bah voilà, c'est représentatif à mon avis d'une exaspération d'une partie de nos concitoyens. Mais c'est vrai que comme plusieurs me l'ont dit, voilà, choisir entre le Maroc et la France, c'était comme pour beaucoup, c'était comme avoir à choisir entre son père et sa mère. Ça n'a pas de sens. On aime les deux autant quand on est binational. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut pas non plus exagérer. Vous avez quand même une grande majorité de Français qui respectent les binationaux, qui respectent l'origine, quelle qu'elle soit, de leurs concitoyens. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut être pour l'Argentine, pour le jeu de l'Argentine, pour Léo Messi, mais on peut quand même être pour la France. Voilà. Donc, moi, je suis pour la France et je suis sûr que la plupart des supporters du Maroc,
on dit qu'il soutiendra la France.
Qu'il soutiendra la France.
Bien sûr.
Donc, si le Maroc qui a perdu est pour la France, cher monsieur Karim, allez, aidez-nous à gagner dimanche, quoi.
Charles, c'est ce qu'elle nous a dit Karim quand il dit, je suis exaspéré. On nous demande toujours de nous justifier. On est toujours l'impression qu'on n'est pas de bons Français. C'est pas faux non plus, je veux dire. C'est pas faux. On pointe pas les gens d'origine portugaise, italienne, espagnole, polonaise quand ils ont le cœur qui chavire dans un match France avec le pays de leurs origines. Pour autant, pour les Marocains, Tunisiens, Algériens, on a l'impression que on va presque regarder s'ils sont pas debout, la main sur le cœur, à chanter la Marseillaise.
C'est vrai qu'il y a peut-être deux poids, deux mesures. Mais j'ai envie de dire à Karim, je pense qu'il est de Gennevilliers, non ?
Karim, d'où vous êtes ?
Allô ?
Karim, vous êtes d'où dans le 82 ?
Non, moi je suis de Pantin, mais c'est quelqu'un qui disait qu'il était passé à Gennevilliers, qu'il avait vu les drapeaux marocains, il avait dit, allez à Gennevilliers, vous verrez que ce n'est plus la France. Ouais. Mais écoute...
Moi, Karim, j'ai un peu de nostalgie de l'époque où j'ai commencé dans la police, mais même avant, en 1982, donc ça date, où j'ai commencé comme ilotier, parce que j'ai commencé à la base, moi, un gardien de la paix, le plus beau métier du monde. J'ai été ilotier au Grésillon à Gennevilliers. C'était une période incroyable. Alors c'est vrai que, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy, on avait une équipe d'ilotiers qui jouait au football avec les jeunes des Grésillons. Quand on patrouillait le soir, on n'avait pas besoin de gilet pare-balles, de casque et de matraque, de flashball.
C'était la police de proximité avant.
C'était la police de proximité. On allait, alors, bon, moi je connais un peu les Grésillons, pour ceux qui connaissent, on allait, maintenant il y a beaucoup de commerces qui ont été détruits, mais on allait voir les commerçants, on allait même des fois manger le soir, et c'était une période quand même bénite. Alors on voit bien
sur le plan identitaire par rapport à ce qu'on nous dit Karim, parce que là
ne faites pas
Charles, vous revenez sur votre conception policière, j'entends, donc c'est la déformation professionnelle, mais là Karim nous dit on ne nous reconnaît pas comme des Français parce que effectivement on est fier de nos origines et on est fier d'être Français. Pourquoi ça pose problème dans la société française, alors que, comme l'a dit Michel Taub tout à l'heure, donc on peut vivre tout à fait remarquablement bien, de manière apaisée et épanouie, cette forme de double identité.
Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision complètement noire. Je crois qu'effectivement, il y a... Tout à l'heure, juste avant la publicité, je voulais rebondir sur les réseaux sociaux. Et je vais revenir sur mon ancienneté. Quand j'ai commencé dans la police, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux... Alors, on parlait, par exemple... pour reprendre votre expression, l'abruti qui brûle un drapeau et ça passe en boucle.
Alors, c'est vrai.
Et ça passe en boucle et ça rend dingue les gens. Et on a l'impression que ça devient une généralité. On n'avait pas ça avant. Donc il faut tenir compte de ça. Il faut
l'effet loupe. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est très frappant parce que il y a une vidéo qui tourne en boucle, Michel.
Oui,
si vous l'avez vu.
Avec la CAF, etc. Oui.
Avec la carte vitale.
Oui, la carte vitale.
Celui
voilà.
qui dit, mais nous on est là pour la carte vitale.
Alors c'est quoi
quel abruti.
C'est trois abrutis.
C'est trois abrutis. Le type, il doit avoir 18 ans, 19 ans. Il sait que c'est provocateur ce qu'il dit, c'est viral, et là tu as tous les gens d'extrême droite qui t'expliquent, vous avez vu pourquoi ils sont là pour la carte vitale. Non mais il faut arrêter.
Ouais, mais celui qui a fait la vidéo, c'est aussi, excusez-moi,
mais j'ai commencé par lui, c'est un abruti. Carrément. Mais est-ce qu'il faut qu'on tombe dans le piège de cet abruti,
c'est ce
pour fracturer la société
évidemment
française.
Évidemment non, mais c'est vrai. Donc, que voilà.
J'ai envie de répondre à Karim, l'auditeur, ne faites pas le jeu des extrêmes. Ça se passe quand même bien en France. Les gens sont heureux de vivre ensemble. Après, il faut pas tomber dans les pièges tendus par les extrémistes, dans les pièges tendus par les manipulateurs sur les réseaux sociaux. Il faut être prudent. On n'est quand même pas dans une société où tout le monde se haït. C'est pas vrai.
Bon, on a Mehdi de Toulouse qui nous appelle. Bonjour Mehdi.
Voilà, c'est une.
Médine, comment ça va?
Ça va et vous?
Impeccable, fidèle à Beurre FM, ouais, merci.
Toujours. L'équipe va bien, la santé, ça va?
Ça va, alhamdoulilah, comme on dit chez nous.
Alhamdoulilah, vive la troisième étoile pour nous.
Exactement.
Depuis le début, je le dis. Je le dis depuis le début. Hein.
On dit alhamdoulilah et derrière on dit vive la troisième étoile pour nous. C'est pas incompatible.
Moi, je suis de la génération 84 où j'ai connu le melting pot dans tous les quartiers. C'est beurre blanc rouge entre parenthèses. Je peux m'exprimer comme ça. J'ai grandi avec toutes les religions, il n'y avait pas toutes ces querelles. Après, je pense que les réseaux sociaux ont une grande importance dans ça, parce que tout le monde tombe dans le piège, en fait.
Exactement.
Et pourquoi tu peux être d'origine, moi je suis d'origine algérienne, je suis de confession musulmane, et vive la France.
Bravo, Médine.
Je suis un enfant de la France.
Bravo, Médine.
Il n'y a rien à dire. Et franchement, je ne comprends pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, ceux qui supportent les Argentins, c'est bien. Mais vous êtes français, supportez la France. S'il y a un problème, on le règle comme dans les familles, en interne. Mais aux yeux du monde, c'est vive la France. Il n'y a pas de problème.
Michel,
les conflits, c'est en interne, ma foi. Comme en famille.
Médine, avec cet accent magnifique de Toulouse, là. Donc, ce qu'il nous dit, c'est clair.
Mais comme dit la chanson, c'est ça la France. Voilà, c'est tout. C'est la réalité de la société française. Et comme je le disais d'ailleurs, pour revenir sur un autre propos de tout à l'heure, mais on disait. Ceux qui, beaucoup d'entre eux, commettent des faits de délinquance, de dépravation des biens publics à l'occasion des matchs, mais très souvent, et la grande majorité d'entre eux, sont français. Donc il y a des mots qui sont employés qui sont en fait des véritables pièges. Alors il n'y a pas que les réseaux sociaux, hein, il y a aussi le discours public, il y a aussi le travail de sape qui est fait dans certains quartiers aussi, il faut avoir l'honnêteté de le dire.
Bien sûr.
Sur, malheureusement,
mais des extrémistes,
sur la
souffrance
sociale, il y a aussi beaucoup d'exploiteurs qui mélangent religion, trafic de drogue, etc. Voilà, il y a aussi un écosystème, il y a une économie qui s'est mise en place et contre laquelle, par exemple, la police est complètement désarmée parce que c'est pas son rôle. Voilà. Et moi, je voudrais dire absolument, je voudrais saluer l'îlotier que vous avez été et qu'à un moment donné, vous restez dans votre esprit parce que, effectivement, la suppression de la police de proximité par Nicolas Sarkozy a été une énorme erreur. Une énorme erreur. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de décisions aussi lourdes de conséquences que celle-là, parce qu'elle a créé les conditions d'une fraction, d'une séparation entre les autorités publiques qui incarnent les policiers et les habitants de ces quartiers. Ça a été une erreur majeure et on n'a jamais réussi véritablement à la rattraper.
J'ai une pensée pour Jean-Pierre Avrin, qui était le directeur départemental de la sécurité publique de Toulouse,
un ami,
qui avait été pointé par Nicolas Sarkozy lorsqu'il lui avait dit « mais on n'organise pas des matchs de foot ou de rugby avec les jeunes des quartiers ». Et Jean-Pierre Avrin lui avait dit « mais c'est pas ce que nous faisons, mais nous retissons des liens de confiance avec les habitants des quartiers et les jeunes positifs ». Donc c'est important. On va évoquer après cette deuxième pause les thèmes qui ont fait l'année 2022. Messieurs, je vais vous faire réagir sur l'élection d'Emmanuel Macron, la situation politique en France, la guerre en Ukraine. Qui aurait prédit que sur notre continent on allait vivre une guerre? Donc l'inflation, les prix qui explosent et les Français qui souffrent. 01 53 48 3000. Donc composez ce numéro, faites comme Médine, que je remercie, qui a eu, avec ce bel accent de Toulouse, un témoignage fabuleux de Médine. Médine nous dit les choses avec son cœur. Merci Médine pour ce témoignage qui fait du bien à entendre. Faisons France ensemble. Arrêtons de fracturer ce grand et beau pays qui est le nôtre, que ça plaise ou pas.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans Les Engagés, les amis, on poursuit nos débats. Je vais vous demander, dans une approche un peu zapping, si vous me permettez, les amis, de réagir sur une forme de rétrospective 2022. Alors, élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République pour un deuxième quinquennat. Une majorité à l'Assemblée nationale qui est relative, qui n'est pas absolue, donc très fragile pour gouverner le pays. Cette, je dirais, recomposition politique qui est en marche, sans jeu de mots, avec le parti qu'a créé Emmanuel Macron depuis son premier mandat en 2017 et son élection à la présidence de la République, où il avait explosé le Parti Socialiste, qui était, je crois, il avait fait 6% à Mont, donc dans les choux. Cette deuxième élection a vu la droite républicaine exploser, en dessous de 5% pour Valérie Pécresse. Ça veut dire qu'en deux quinquennats, Emmanuel Macron a explosé les deux partis, qui étaient les deux partis pivots de la Ve République. Le Parti Socialiste et l'ancien RPR qui était devenu UMP, qui était devenu LR, qui est devenu LR. Michel, en tant qu'éditorialiste, cette situation politique, elle est quand même inédite. On a Emmanuel Macron aujourd'hui, qui se prétend ni de droite ni de gauche, et Marine Le Pen qui est arrivée en force à l'Assemblée avec 89 députés et qui semble être une force politique organisée et structurée face à celle d'Emmanuel Macron. Alors que les autres sont dans les choux. Comment on peut analyser ça ?
Ah ben, je pense que, c'est, vous avez tout résumé. On a aujourd'hui deux personnes politiques, et pas trois. Je pense vraiment pas trois, parce que certains ont dit Mélenchon pourrait constituer une sorte de, d'alternative. Non, moi je pense que après Macron et Marine Le Pen, c'est le désert qui est devant nous. Et c'est terriblement dangereux. Pourquoi c'est terriblement dangereux ? Excusez-moi, parce que quand vous avez bien résumé ce qui s'est passé en 2022, moi j'aimerais projeter un petit peu en 2023 et même au-delà.
C'est le fera tout à l'heure avec un peu plus de détails.
Ouais, mais il y a un problème, tout bête. C'est qu'Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter en 2027. Il ne pourra pas se représenter.
Effectivement.
Et ma conviction la plus intime, c'est que la Macronie ne va pas survivre à Emmanuel Macron. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez dit, la gauche a explosé, la gauche social-démocrate a explosé, la droite républicaine a explosé. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir lorsque la Macronie va exploser ? Qu'est-ce qui va
Michel, c'est quoi la Macronie ?
Un champ de
mine. Non, mais qu'on comprenne bien, c'est quoi le macronisme ?
C'est les 220...
Non, mais le logiciel politique. Vous qui êtes un passionné de politique.
En même
parce
temps,
que c'est quoi le macronisme ?
Non, mais le macronisme, c'est en fait...
Être macroniste, c'est quoi ?
C'est la réinvention du... de cette idée du nouveau centre, du centrisme en France, qu'avait impulsé Valéry Giscard d'Estaing, les plus anciens de nos auditeurs de BRFM l'ont certainement connu, c'était l'idée que la politique française peut se faire au centre. C'est-à-dire on prend un peu à gauche, un peu à droite, et on essaye de gouverner comme cela. C'est ça que Macron a réussi, et c'est tout
un... C'est un logiciel politique, ça, en tant que tel ?
Non, je pense que c'est pas un logiciel politique. Ou alors, il s'y est perdu. Ici est perdu. Parce que si vous prenez sur les questions de sécurité, vous prenez la question sociale, on ne sait pas où est sa colonne vertébrale, où sont ses convictions les plus fortes. Et je pense que si vous demandez à un Français où est-ce qu'Emmanuel Macron veut emmener les Français, il aura du mal à vous répondre.
Alors si je vous pose la question...
On s'est un peu perdu et je trouve ça fort dommage parce qu'en revanche, le programme politique de Marine Le Pen, comme celui de Jean-Luc Mélenchon, il est assez clair. Et donc moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, d'ici 2027, on se trouve face à un champ de ruines qui fera que, devant l'offre politique qu'on aura, on n'aura plus le choix qu'entre les extrêmes.
En un mot,
Marine
Michel,
Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Michel, parce que pour moi, Mélenchon, c'est les extrêmes
Michel,
aussi.
En un mot, Emmanuel Macron, il est de droite ou il est de gauche ?
Écoutez, il est convaincu qu'il est des deux.
Non mais lui, vous, il est plutôt centre-droit ou centre-gauche ?
Moi, je pense que c'est profondément un centriste.
Donc, vous ne tranchez pas ?
Je ne tranche pas, et je pense que, si je vous dis qu'il est de droite, il y a des mesures qu'il a prises qui sont plutôt, franchement, de gauche, et si je vous dis qu'il est de gauche, il est... Bon. Donc, non, c'est un centriste.
Il est fidèle à son en même temps.
Pour moi, c'est un centriste.
Charles Mendès, je sais que vous n'êtes pas éditorialiste politique, vous êtes consultant plutôt sur les questions de sécurité, mais vous êtes quand même un citoyen éclairé, intéressé par ce qui se passe dans la vie politique dans le pays. Comment vous analysez cette situation politique aujourd'hui qui fait que le Parti Socialiste a implosé complètement en 2017 et que LR, avec Valérie Pécresse, qui est une femme respectable pour autant, qui préside la première région d'Europe, a explosé en vol avec moins de 5% au présidentiel. Macron a complètement dynamité la bipolarisation politique.
Et on peut le regretter, parce que moi je vais parler de l'ancien monde, j'ai 61 ans, moi j'ai bien connu le Parti Socialiste, du temps de sa splendeur. D'ailleurs on avait soutenu à l'époque, quand je m'occupais de syndicalisme, Lionel Jospin, tout simplement pas par idéologie, mais sur, par exemple, on en parlait tout à l'heure, sur la mise en place des policiers sur le terrain, la police de proximité. Lionel Jospin avec les assises avait relancé ça. Non, moi je le déplore parce que moi je suis pour une droite républicaine, je suis pour une gauche républicaine. Et malheureusement, comme vous l'avez dit Karim, les deux partis ont explosé.
Vous êtes inquiet comme Michel Taube par rapport à 2027 ?
Très inquiet parce que effectivement, comme dit Michel, après Macron va se représenter. Il reste quoi ? Il reste aujourd'hui Macron, Le Pen.
C'est quoi l'après Macron ? L'après Macron pour vous, c'est quoi ?
Ah, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai
Édouard Philippe, vous y croyez ?
Édouard Philippe. Je suis sceptique.
Vous êtes pas emballé, hein.
Je pense que Marine Le Pen peut gagner les élections parce que moi je me rappelle quand le Front National faisait 15% ou 10%, tout le monde était dans la rue. Aujourd'hui, elle est aux portes du pouvoir et peut-être avec une alliance avec un parti de droite et moi je vois très bien, mais bon, moi je fais la politique fiction, je vois très bien Ciotti passer un accord par exemple avec Marine Le Pen et avoir une majorité. C'est pas de la science-fiction, il faut faire attention. On a vu, moi ma génération 60 ans a vu grandir le Front National. Je l'ai vu moi à 3% et je le vois aujourd'hui, je vois sa fille
43.
Aux portes du pouvoir. Qui aurait pu prédire autant de députés à l'Assemblée nationale ? Personne, tout le monde, même Marine Le Pen a été surprise de son score. Donc elle est aux portes du pouvoir.
Alors je le dis parce que vous avez évoqué le Parti Socialiste. On a lancé une invitation avec Beurre FM à François Hollande, avec Lou Pineda, puisque Lou s'occupe effectivement de prendre les contacts avec nos invités. On a lancé une invitation à François Hollande en lui disant « Monsieur le Président, venez nous parler de la gauche d'aujourd'hui et du Parti Socialiste, de ce qu'il est devenu. Et il est toujours intéressant d'avoir l'avis de celui qui a été le leader du Parti Socialiste. » D'ailleurs, Michel, je ne sais pas si vous avez vu le sondage IFOP des personnalités préférées des Français. Vous avez vu le podium ?
Non.
Premier, Édouard Philippe.
Ouais.
Deuxième, François Hollande.
Ouais.
Troisième, Rachida Dati.
Oui. Ouais, mais ça prouve bien.
Ça veut dire quoi, ça ?
Mais Karim, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Moi, je suis parmi ceux qui critiquent le plus les instituts de sondage, qui se sont très, très souvent trompés dans les prévisions électorales. Je salue toujours, quand je peux le faire, permettez-moi de le faire, le quotidien Ouest France, qui dans les quatre derniers mois de l'élection présidentielle a refusé de parler des sondages parce qu'il disait
c'est intoxiquer les esprits.
Franchement, non, franchement. Édouard Philippe, François Hollande, c'est toujours pareil, c'est comme Jacques Chirac, il était aimé de tous les Français.
On a envie de le recevoir sur Beurre FM.
Quand il était au pouvoir, les Français ne l'aimaient pas. Donc franchement, bon, après François Hollande, il va pouvoir vous expliquer, à mon avis, pourquoi on en est arrivé là.
Michel, vous entendez la petite musique ?
Oui, la douce musique.
C'est quoi cette musique ? Vous la connaissez ? Quand les joueurs de l'Olympique de Marseille rentrent au stade Vélodrome, c'est Jump, à 20 ans. Petite pause les amis, on revient très vite avec le conseil citoyen Hervé Serroussi, notre avocat marseillais qui va nous parler des drapeaux, puisque un élu zémourien nous a dit qu'il voulait interdire les drapeaux. On va demander si juridiquement c'est possible à notre avocat marseillais Hervé Serroussi. A tout de suite.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Les amis, nous sommes de retour avec une question. Êtes-vous favorable ou pas à l'interdiction des drapeaux et des maillots pour fêter les victoires des équipes ou pays adverses, donc lors des moments de liesse, comme cela a été le cas lors de France-Maroc? On a vu beaucoup de drapeaux marocains, mais pas seulement, et de maillots de l'équipe nationale du Maroc. Et il y a un sénateur, Reconquête, c'est le parti de Zemmour, qui a demandé à la préfète des Bouches-du-Rhône d'interdire la présence de maillots et drapeaux marocains. C'est très farfelu comme demande, mais d'abord, je me tourne vers l'ancien policier. Est-ce que ça pose problème des drapeaux ou des maillots qui ne seraient pas bleu, blanc, rouge sur la voie publique ?
Karim, c'est hallucinant cette demande. On commence à demander à supprimer les drapeaux. Demain, on va interdire de sortir le soir. Bon, je parle pas du Covid, mais non, mais ça, c'est de la dictature. Enfin, c'est absolument pas. Enfin, je sais même pas quoi dire à ce genre de demande. C'est
Michel.
Non, mais c'est ridicule. On est dans un pays pluraliste où on a le droit, voilà, de. Moi, je suis pour l'interdiction et la répression des faits de délinquance, de criminalité, de manque de respect. Mais voilà, ficher un drapeau, on a encore le droit. Donc non, c'est absolument, c'est de la pure démagogie politicienne.
Maître Seroussi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous comme chaque semaine, maître. Vous avez entendu cette entame, cette introduction sur la demande d'un sénateur Reconquête, dont je ne citerai pas le nom, j'ai pas envie de le citer, je vous dis franchement, je trouve que c'est pas besoin de faire de la publicité, c'est tellement nul ce qu'il demande. Donc en tout cas, il demande de supprimer les drapeaux et les maillots des équipes adverses lors des célébrations, comme ça a été le cas après le match France-Maroc. Juridiquement, ça tient la route ou c'est complètement farfelu?
Alors, c'est totalement farfelu, Karim. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il se fonde sur un article de loi, notamment l'article 332 du Code du sport, qui n'a absolument rien à voir avec cette problématique-là. L'article L332 du Code du sport prévoit la possibilité pour un préfet, pour le ministre de l'Intérieur, d'interdire un déplacement pour des supporters si ces supporters vont causer, a priori, un trouble à l'ordre public. Je ne vois pas en quoi porter un maillot d'une équipe différente que celle de l'équipe de France est un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter les dérives, il faut arrêter d'aller rechercher des problématiques là où elles n'existent pas, porter le drapeau du Maroc, de l'Algérie, ou peu importe, c'est-à-dire le drapeau qu'on porte, c'est du supporterisme, ça n'a rien à voir avec un trouble à l'ordre public. Pour moi, clairement, ce sera retoqué.
Et l'obligation du drapeau national et du drapeau européen, me semble-t-il, c'est sur les frontons de nos institutions républicaines, maître. C'est les collectivités locales, par exemple, les collectivités territoriales.
Alors tout à fait. Alors il y a l'obligation effectivement de diaposer le drapeau français et le drapeau européen. Vous avez totalement raison, mais vous savez, il y a quand même des antécédents relativement à ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, notamment à Béziers, il y a une charte de bonne conduite qui doit être signée notamment pour les mariés, où il est interdit, notamment à Béziers, de venir avec un drapeau étranger. Le Sénat, il y a quelque temps, veut adopter notamment un amendement sur la loi de séparation qui prévoit aussi l'interdiction future d'apporter un drapeau étranger dans une mairie française au moment de la séparation d'un mariage. Mais on est dans totalement quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que veut mettre en avant ce sénateur.
Non mais vous parlez justement de la mesure du maire de Béziers, Robert Ménard. Donc ça veut dire que dans une salle de mariage d'une collectivité ou devant, je dirais, la collectivité en question, sortir des drapeaux qui ne seraient pas des drapeaux français peuvent être interdits.
Alors, c'est pas que c'est interdit, la loi ne l'interdit pas, mais la charte de bonne conduite qu'impose le maire de Béziers avant de prononcer un mariage, c'est-à-dire c'est une charte qui doit être signée par les futurs mariés qui doivent respecter, notamment pas de klaxon, pas déranger le voisinage à la limite, c'est la base, pas de rodeo urbain et pas de drapeau étranger.
D'accord,
la loi aujourd'hui ne l'interdit pas, mais en revanche, c'est un engagement que prennent des futurs mariés. Si cet engagement n'est pas tenu par eux, le maire peut reporter le mariage et ne pas le prononcer du coup.
Ça veut dire que sans tapage aucun, sans problématique sur la voie publique, je porte simplement un drapeau portugais lors d'un mariage de ma nièce qui est portugaise, donc on peut reporter le mariage, sans qu'il y ait aucun trouble.
Tout à fait, sans qu'il y ait un trouble public. Et là, pour moi, c'est totalement une dérive, Karim, hein, parce que la loi est claire, la mesure dont parle le sénateur, vous ne l'avez pas cité, mais en l'occurrence, cette mesure, c'est une mesure qui a vocation à interdire un déplacement de supporters qui seront susceptibles de troubles à l'ordre public. Et ça, on le voit régulièrement, avec des supporters marseillais qui montent à Paris, qui sont interdits, de Saint-Etienne, c'est-à-dire, on le voit régulièrement, mais ça n'a jamais été vu par rapport à un port de drapeau, c'est-à-dire, le port d'un drapeau en lui-même n'est pas une cause de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire, à un moment donné, on est dans un délire total, et on est dans quelque chose que moi, je n'aime pas voir en France. En France, on peut exprimer ses opinions, on peut exprimer ses tendances, on peut exprimer ses origines. Exprimer ses origines ou exprimer un soutien à un pays différent qui est le nôtre, à savoir la France, n'est pas un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, on est dans une dérive totalitaire qui est pour le moins très dangereuse.
Est-ce qu'on peut dire que cette atteinte, pour terminer, maître, est une atteinte à la liberté d'expression?
C'est évident. La liberté d'expression, vous savez, c'est un droit qui est consacré par par la Constitution, bon, bien évidemment, que d'interdire un Portugais de soutenir son équipe, non pas de par le port d'un drapeau ou d'un maillot. C'est-à-dire aujourd'hui, si on devait interdire à tous les minots dans nos rues de porter le maillot de Cristiano Ronaldo, parce que c'était le maillot fétiche des jeunes garçons ou celui de Messi qui supporte l'Argentine, j'allais dire, mais on arrive dans une France qui ne ressemblerait plus à rien, et en tout cas, c'est pas la France pour même, et c'est pas la France qu'on a envie de voir évoluer. Je pense que cette proposition a vocation purement et simplement pour moi, Karim, à faire le buzz. Ce qu'il faudrait interdire en revanche, c'est effectivement les trois républiques. Vous l'avez vu à Montpellier, à la suite de ce match-là, malheureusement, il y a eu un décès. Ça, c'est des rodéos urbains qui sont dangereux, et c'est à ça, à mon avis, que les sénateurs doivent s'attacher. Pas d'aller fêter, j'allais dire, et consacrer un pays dont on a une acquaintance particulière, que ce soit le Maroc ou un autre. Mais j'ai quand même tendance à dire qu'on remarque quand même ce type de débat bien plus souvent lorsque c'est des équipes type maghrébine, Maroc qui jouent, que lorsque c'est l'Argentine ou le Brésil. Car malheureusement, il y a quand même une tendance régulière à stigmatiser un certain type de population, et c'est ce qui me gêne.
Vous savez pourquoi on aime Hervé Seroussi sur BFM ? Parce qu'il s'appelle Hervé Seroussi, mais il fait preuve d'une objectivité qui est impressionnante. Il arrive à faire preuve de nuance et de discernement et à pointer le deux poids deux mesures et l'approche à géométrie variable qui existe dans les indignations des uns et des autres. Il est juste. Moi, si j'avais un avocat à prendre, bon, je prendrais Hervé Seroussi. Je vous le dis tranquillement. Merci, maître. Merci, maître. Mais
rassurez-nous, vous ne prenez pas que des Marseillais comme clients.
J'ai tendance quand même à faire un peu de communautarisme marseillais, je le reconnais. Donc, mais bon, moi c'est avec Marseille, on se définit comme un peuple.
On est sur le territoire, mais c'est vrai qu'on est quand même très communautaire à Marseille. Vous le savez, on aime notre ville.
Oui, mais d'ailleurs, vous avez des non-marseillais qui préfèrent Marseille au PSG. Hein. Moi, je suis parisien. Enfin, je suis alsacien. Oui. Excusez-moi, je suis alsacien.
D'accord.
Et j'adore Marseille. Je trouve que c'est un
Marseille. Vous savez,
Marseille, Saint-Étienne, Lens, ça, c'est des vrais clubs en fait.
Ça, c'est très générationnel, ça. Vous savez, des gens à partir
Lens
aujourd'hui adorent Marseille parce que ça nous rappelle le grand Marseille. Mais le grand Marseille de l'époque va peut-être redevenir bientôt une grande équipe et l'équipe qu'elle était il y a quelques années et qui nous a fait tant vibrer.
Hervé Seroussi, votre pronostic pour dimanche. Je sais que vous êtes un passionné de football France-Argentine.
Écoutez, j'aimerais voir l'équipe de France gagner. Mais je trouve que l'Argentine est quand même relativement impressionnante sur les derniers matchs, notamment Messi. Alors d'un côté, mon cœur est français et j'aimerais voir Didier Deschamps soulever son deuxième trophée en tant que sélectionneur. Mais j'ai bien peur qu'on ait une mauvaise surprise pour peut-être la dernière Coupe du Monde de Messi. Donc voilà, vous avez compris mon pronostic que je donne en filigrane.
Merci maître. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui Michel.
Ah ben moi aussi j'ai un pronostic.
Alors c'est quoi ?
Messi 1, Mbappé 2.
C'est pas mal ça, les deux Parisiens qui s'affrontent. Nous avons une rubrique cette semaine qu'on n'avait jamais mis en œuvre, mais qu'on avait préparé un peu dans les cartons, parce qu'on se disait, il va falloir qu'on la fasse vivre cette rubrique, elle nous tient à cœur, c'est la rubrique Maghreb Actu.
Maghreb Actu, le fait marquant.
Alors Maghreb Actu, c'est une rubrique qui est très courte, qui est une rubrique composée de brèves, et c'est Fodil Bellamri. Bonjour Fodil, ça va ?
Bonjour Karim, ça va super bien.
Un petit moment qu'on n'avait pas entendu ta voix.
Eh ben, je suis de retour aujourd'hui.
Ça fait plaisir en tout cas. Alors dans ce Maghreb Actu, qu'est-ce que tu nous as concocté comme brève concernant les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie ?
Eh ben, l'actualité est riche au Maghreb, mon cher Karim. Après des mois de froid entre la France et le Maroc, la ministre française des Affaires étrangères est à Rabat au Maroc depuis hier pour une visite de deux jours. L'objectif est de préparer la visite du président Emmanuel Macron au Royaume en janvier prochain. Au cours de cette visite, plusieurs dossiers seront abordés, dont l'épineuse question des visas. Pour rappel, Paris a décidé de durcir les conditions de visa pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie il y a deux ans, car il refusait de délivrer les laissez-passer consulaires pour récupérer leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français.
Est-ce qu'on a une date pour la visite du président ou pas encore ?
Normalement, ça doit se faire au mois de janvier. Pour l'instant, on n'a pas encore une date précise.
Donc, le président Macron partira au Maroc au mois de janvier et Elisabeth Borne est partie un peu en éclaireur.
Exactement. Non, c'est pas Elisabeth Borne, c'est Catherine Colonna.
Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Merci.
Et du côté de la Tunisie, les Tunisiens seront invités demain à se présenter aux urnes pour élire leur nouveau représentant. Plus de 1000 candidats sont en lice pour ce scrutin que la plupart des partis politiques ont appelé à boycotter. Ils estiment que leur rôle est fortement réduit depuis la réforme de la Constitution voulue par le président Kais Saied après son coup de force en juillet dernier. En revanche, le nouveau Parlement sera composé de 161 députés, mon cher Karim.
Élection législative, on précise.
Exactement.
Donc les Tunisiens élisent leurs députés après avoir fait une modification de la Constitution.
Effectivement, mon cher Karim.
Ça bouge en Tunisie. Ça bouge. Le climat est un peu tendu. Michel, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'avec votre regard sur la géopolitique, j'aimerais que vous me disiez un peu l'état du Maghreb selon vous.
Et enfin, en Algérie, mon cher Karim, les autorités algériennes ont décidé de réouvrir le Sahara 14 ans après aux touristes étrangers avec l'ouverture de la compagnie aérienne Air Algérie d'une nouvelle ligne directe entre Djanet et Paris, dont le vol inaugural sera lancé demain. Une décision qui va permettre aux touristes et aux amateurs du voyage d'explorer une autre facette de l'Algérie et de découvrir le Sahara algérien, mon cher Karim.
Et le Sahara algérien dont on dit, en tout cas les spécialistes le disent, qu'est le plus beau Sahara du monde. C'est le patron de Voyageurs du Monde qui le dit. Lorsque le Sahara algérien était ouvert, le taux de demande affluait et tout un chacun dit le Sahara algérien, c'est le plus beau du monde.
Et puis toujours en Algérie, selon le quotidien arabophone Al-Khabar, le gouvernement a décidé de baptiser le nouveau stade de Baraki du nom du défunt président sud-africain Nelson Mandela, qui entretenait des liens très particuliers avec l'Algérie, rappelant que Mandela avait choisi les terres algériennes comme lieu de sa première visite dans un pays étranger quand il a quitté la prison en 1990. Pour rappel, plus d'un an a été proposé pour ce nouveau stade, comme le stade de l'équipe nationale du Front de Libération Nationale, FLN, ou encore le stade Hassan l'Almas. L'inauguration officielle de l'enceinte sportive devra se faire dans les prochains jours par les mains du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Toujours une actualité sur le foot avec l'Algérie.
Exactement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebzeg, a annoncé à Alger que le dossier de candidature de l'Algérie pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025, retiré à la Guinée, sera déposé avant cet après-midi. Le dossier de l'Algérie regroupe 6 stades, dont celui de Baraki, Mustapha Chaker, Duira, Annaba et le stade d'Oran. Le stade olympique du 5 juillet et celui de Tizi Ouzou seront des stades de substitution en cas de besoin. 32 stades d'entraînement seront proposés. Chaque nation aura son propre centre d'entraînement et son hôtel, mon cher Karim.
C'est terminé pour les brèves de Maghreb Actu.
C'est tout pour moi aujourd'hui.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Fodil.
Merci beaucoup.
J'adore Fodil parce qu'il nous donne les noms des stades et autres avec l'accent de l'Algérie. Donc moi, je ne sais pas le faire. Moi, c'est l'accent de Marseille quand je prononce ces termes et ces mots. Une petite réaction, Michel, d'abord sur l'ensemble un peu de ces brèves assez rapidement, hein, parce qu'on ne va pas passer l'émission là-dessus, mais la situation en Tunisie, quelle est-elle ?
Alors, elle est importante. Vous savez que la Tunisie a connu sa révolution, son printemps du jasmin, sa révolution du jasmin en 2010. Et moi, je suis très, très attaché à la Tunisie pour des raisons notamment personnelles. Et je trouve que c'est une pépite dans le monde turbulent dans lequel nous vivons et qu'on doit protéger, aider, avancer.
Petit pays Djerba, de 10 millions d'habitants.
10 millions d'habitants. Djerba a accueilli le sommet de la francophonie il y a 15 jours. Si vous voulez, depuis la révolution, depuis la chute de Ben Ali, honnêtement, c'était un peu l'anarchie qui régnait dans le pays au niveau politique. Et c'est vrai qu'il y a un homme qui est arrivé, le président de la République, qui est très critiqué, qui a commis des excès, c'est certain, mais qui a décidé, et il a réussi, puisqu'il a fait passer un référendum, à changer la constitution pour que le pouvoir soit moins à l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'exécutif, ce qui est un peu comme on fait en France. En France, si vous voulez, c'est le pouvoir exécutif qui gouverne, et l'Assemblée nationale, elle suit, elle dispose, 49-3 et tout ça. Et en Tunisie, c'est un peu la même chose. Et donc moi, je préfère saluer, je tiens à le dire, ce qu'est en train de faire le président de la République tunisienne, parce que avec ces élections législatives, eh ben l'Assemblée qui va sortir des urnes aura moins de pouvoir que la présidente de l'Assemblée. Mais je pense que c'est pour le bien de la stabilité de la Tunisie, parce que la Tunisie a besoin maintenant de se concentrer sur l'économique, sur le social, et de moins s'entre-déchirer entre les islamistes, les démocrates, la gauche, la droite, etc. Non, la Tunisie a besoin de se développer, et donc il faut moins regarder du côté de la politique et plus de l'économie.
Michel.
Donc cette élection, elle est importante, mais je pense que la Tunisie a besoin de stabilité avant tout, et elle a besoin aussi que la France, qui est son premier partenaire économique, la soutienne au maximum.
Michel, la Tunisie, c'est un pays effectivement qui nous tient à cœur, petit pays de 10 millions d'habitants, qui est quand même très dynamique à tout point de vue, phosphate, agriculture, tourisme, c'est les, quand même le triptyque, j'allais dire, un peu économique de la Tunisie. Cette frontière libyenne, elle pose encore problème à la Tunisie, Michel ?
Bah oui, tant qu'il y aura de l'anarchie en Libye, tant que vous aurez des trafiquants d'êtres humains et de migrants, tant que vous aurez des querelles, plus que des querelles, une guerre entre différentes forces militaires, oui, il y a un danger. Mais là aussi, c'est quand même extraordinaire comment la Tunisie a réussi malgré tout à se protéger contre cette pression venue de la Libye. Et moi, je crois beaucoup à la résilience du peuple tunisien.
Vous êtes confiant pour la Tunisie ?
Je reste confiant parce que je pense que le peuple tunisien a des forces intrinsèques qui sont extraordinaires. Moi, je pense notamment aux femmes tunisiennes qui sont un peu considérées dans le monde arabo-musulman comme...
Les premières à être émancipées.
Hein. À être émancipées et à être les premières défenseurs des libertés en Tunisie. Donc moi, j'ai confiance dans le peuple tunisien, mais ceci dit, je pense qu'il a besoin de stabilité. Et ce qu'a fait le président de la République, encore une fois, avec beaucoup d'excès, mais au moins, il a réussi à remettre un peu de stabilité dans les institutions et c'est une très bonne chose. Donc moi, je reste confiant, mais il faut soutenir les Tunisiens comme il faut soutenir aujourd'hui les femmes iraniennes qui se soulèvent contre le régime des Mollahs.
Il
y a comme ça, vous voyez, des pays dans les différentes régions du monde où il faut vraiment les soutenir pour pouvoir avancer.
Michel, on aime le peuple tunisien, on le soutient, on espère effectivement qu'il ira vers la stabilité et la prospérité et qu'il... nous, des relations encore et toujours plus fortes avec son autre voisin, l'Algérie, dont je voulais que tu nous dises aussi un mot. Donc l'Algérie, avec cette crise énergétique mondiale, donc se repositionne dans le jeu de la géopolitique, parce que l'Algérie, on le sait, a du gaz et du pétrole, a été courtisée par l'Italie, qui a envoyé donc son Premier ministre. Le président Macron en fait une visite d'État très remarquée.
Trois jours.
Elisabeth Borne est partie derrière.
La plus longue visite d'État qui a jamais fait un président de la République à l'étranger.
Elisabeth Borne est partie derrière avec 17 ministres. Donc, on voit que l'Algérie aujourd'hui se repositionne dans le jeu diplomatique. Là aussi, est-ce que l'Algérie peut jouer un rôle important dans les relations, on va dire, euro-méditerranéennes ?
Écoutez, moi j'aimerais rebondir sur cette superbe chronique où j'ai appris plein de choses sur le Maghreb.
La chronique de Fodil.
Ouais. De Fodil. Vous avez parlé du tourisme. Moi, j'ai été à Timimoun il y a 10 ans déjà, à une époque où j'aimerais saluer un grand monsieur qui s'appelle Maurice Freund, qui avait une compagnie d'aviation qui s'appelait Le Point Afrique. À l'époque, plusieurs avaient essayé de lancer le tourisme dans le sud algérien. Et ça n'avait pas trop marché. Donc moi, j'espère... Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a une manne pétrolière et gazière que le peuple algérien s'enrichit pour autant. Donc moi, j'espère que l'avenir, effectivement, au développement des échanges, du tourisme, d'une économie de services. On est à la veille des fêtes de fin d'année. Il y a un très beau livre que je propose aux éditeurs de Beurre FM d'offrir à leurs familles, à leurs enfants. C'est le livre de Yann Arthus Bertrand, L'Algérie vue du ciel, qui est un livre extraordinaire.
Vous savez ce qu'il m'a dit, Yann Arthus Bertrand, que j'ai croisé dans un restaurant. J'ai fait beaucoup de pays dans le monde. L'Algérie est le plus beau pays du monde. Yann Arthus Bertrand m'a dit ça dans un restaurant parisien.
Eh ben, il en a fait un très beau livre. Et donc ça peut être une très belle idée de cadeau. Donc oui, évidemment, il faut que l'Algérie se tourne vers l'Europe. Moi, j'en suis évidemment partisan, mais il faut que ce soit la société algérienne qui puisse se libérer de certains carcans qui l'a fait souffrir.
Je veux que vous nous disiez un mot de l'union du Maghreb. Elle est indispensable, cette union.
Elle est indispensable. Alors, Nicolas Sarkozy avait essayé de créer l'union pour la Méditerranée. Oui, bien sûr que le Maghreb est absolument indispensable. Malheureusement, comme vous le savez, il y a des querelles entre pouvoirs politiques dans ces pays-là. C'est fort dommageable, mais je sais qu'au niveau des peuples marocains, tunisiens, algériens, mauritaniens aussi, il ne faut pas les oublier, il y a quand même des proximités familiales, des valeurs communes, une langue commune. Oui, on a besoin, mais je suis là où je vous rejoins, la France a besoin que le Maghreb existe.
Tout à fait.
Et malheureusement, Michel, il y a beaucoup de travail devant nous.
Michel, on est pour l'Union du Maghreb, merci de le rappeler. Et j'ai un message de la présidente de Beurre FM, donc Djima Kétane, qui me dit, sur vos propos, Maurice Freund,
Nous sommes partenaires à Beurre FM avec Maurice Frunk pour les voyages séjours qu'on fait gagner à l'antenne et les voyages notamment pour Janet. Donc merci Michel d'avoir cité Maurice Frunk, puisque notre présidente de Beurre FM me rappelle que nous sommes partenaires pour faire gagner des voyages à Janet. Petite pause et on revient les amis pour parler de l'année 2023. Que va-t-il se passer? Quels sont les défis avec Charles Mendes, avec Michel Taub, avec vous, 0153 48 3000, composez ce numéro. Venez débattre avec nous de ce qui va se passer pour l'année 2023. La guerre en Ukraine, la Covid, l'inflation, la loi sur l'immigration, la loi sur la sécurité sociale, la réforme des retraites. Bon, j'en ai mal à la tête. À tout de suite, les amis.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM et j'ai eu un petit appel là pendant la pause de Monsieur Pierre-Simon Benamou qui intervient de temps en temps sur l'antenne de Beurre FM et qui me dit j'ai appelé, j'ai fait le 0153 483, mais vous m'avez pas pris. Pierre-Simon, excusez-nous, on peut pas prendre tout le monde. Vous savez, vous n'êtes pas le seul qu'on ne prend pas sur l'antenne de Beurre FM. Donc lorsque nous avons des débats, nous avons des intervenants, le temps passe vite. C'est toujours une course contre la montre. Charles, c'est la première fois que vous participez à une émission. Mais c'est le TGV de la liberté d'expression, les engagés.
Moi, je suis également surpris. C'est vrai qu'on parle de tout, il n'y a pas de retenue. La parole, elle circule. Et c'est vrai que le temps passe vite. Je me suis dit au départ, 2 heures. Et en fait, ça passe très, très vite. Ça, c'est mes impressions que je vous donne comme ça.
Et ça va pas, se terminer, puisque je vais vous demander que la parole continue de circuler sur les colonnes. Mais plus que ça, je vais vous demander de réagir très vite à des éléments d'actualité de l'année 2023. Alors, sur cette année 2023, Michel, nous avons la guerre en Ukraine. Va-t-elle se poursuivre? Comment? De quelle manière? Est-ce qu'on va avoir une escalade, une désescalade? Votre avis là-dessus?
Moi, je suis très inquiet. Je pense que cette guerre, elle va durer. Après, j'espère que je me trompe. Mais je pense que la Russie a le temps devant elle. C'est un pays, c'est un régime qui a une grande capacité militaire ou industrielle. Alors, s'ils ont échoué sur le plan de la conquête territoriale, ils ont une capacité de bombarder malheureusement l'Ukraine, comme on le voit depuis quelques semaines, pendant à mon avis assez longtemps. Donc, à mon avis, ils s'installent dans une guerre d'usure, en coupant l'électricité, en bombardant tous les centres vitaux. Donc, moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, ça va durer.
Ça va durer.
Moi, personnellement,
pas d'utilisation d'armes nucléaires, selon vous?
Non, je pense pas, mais je crois que le temps à l'usure va jouer à l'usure pour la Russie. Après, est-ce que l'OTAN, est-ce que l'Union européenne, est-ce que la Pologne, qui est voisine de la Russie, vont s'embarquer un peu plus dans ce conflit? Bon, la réalité, c'est que moi, je tiens quand même à saluer le courage du peuple ukrainien. Donc, personne ne s'attendait à ce qu'il résiste autant. C'est vraiment une leçon pour nous tous. Parce que lorsque vous êtes attaqué militairement, nous, nos générations, on n'a pas connu ça. Nos aïeux ont connu ça. Nous, non.
Dieu merci.
Et je pense que c'est une leçon pour tous. Les Ukrainiens aimaient leur pays, ils savent ce que ça veut dire aujourd'hui.
Exactement. On rebondit sur ce sujet de la guerre en Ukraine. Je me tourne vers vous, Charles. Donc, c'est bien d'avoir l'avis de notre éditorialiste qui, de surcroît, est fondateur d'Opinion Internationale et qui a une vision toujours géopolitique des choses. Mais si je me tourne vers vous, avec ce que provoque la guerre en Ukraine, en matière d'inflation notamment, pour nos compatriotes, les prix de l'énergie explosent, les prix au carburant à la pompe à l'identique, les produits de première nécessité, c'est de la folie. J'ai sous les yeux un document que Faudil m'a transmis. Donc vous avez une augmentation du poisson de plus de 15%, des légumes frais de 8%, la viande 13%, des pâtes 10%, les loyers à l'identique, donc si je parle d'un autre poste qui touche et qui frappe les ménages. Charles Mendes, vous êtes inquiet pour cette année 2023 et le climat social de notre pays, les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui bossent, n'arrive plus à boucler les fins de mois?
Vous avez raison, Karim, de poser la question. Quand vous voyez des gens qui font leur plein en début du mois et ensuite ils rajoutent 10 euros, 15 euros pour pouvoir finir le mois, on se pose des questions. Et donc dans la police, et particulièrement dans les services de renseignement, mais je parle des ex-RG, on observe, ils observent, parce que maintenant je suis à la retraite, pour savoir à quand l'explosion sociale.
Vous pensez qu'on va vers une explosion sociale dans
le... Non, mais on peut se poser la question.
Mais est-ce que vous, votre avis de citoyen, votre regard de citoyen, on a eu le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, souvenez-vous, presque 300 000 personnes dans la rue, ce mouvement qui s'est poursuivi toutes les semaines, même s'il n'y avait plus beaucoup de monde, il était un peu larvé, en plus il était investi par des black blocs et autres, alors que les Gilets jaunes de la première heure, c'était des gens sincères, authentiques, des gens qui travaillaient, qui souffraient. Est-ce que vous craignez que pour cette année 2023, avec ce qui nous attend en termes d'inflation, en termes de réforme des retraites, de réforme de la sécurité sociale, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une explosion sociale, type au mouvement des Gilets jaunes, puissance 10, 100.
Pour moi, le détonateur, ça va être la réforme des retraites. Et les syndicats vont se mobiliser. D'ailleurs, ils lancent des avertissements quasiment tous les jours. Ils prévoient déjà en janvier des mobilisations. Et c'est vrai qu'aller faire travailler les gens jusqu'à 65 ans, il va y avoir un sacré déclic qui va certainement être le détonateur pour le reste.
Lou, sur la réforme de retraite, je crois que le président a reporté ça début janvier.
Oui, tout à fait, Karim. Elisabeth Borne était censée dévoiler ce fameux texte ce jeudi 15 décembre, mais finalement il sera dévoilé le 10 janvier 2023 pour une adoption du texte en Conseil des ministres fin janvier et une entrée en vigueur à l'été 2023.
Michel, Lou nous indique qu'on débute l'année 2023, 10 janvier, avec cette réforme de retraite. Est-ce qu'elle est explosive selon vous, ou est-ce qu'elle est inéluctable et les Français vont comprendre qu'il faut la faire?
Je pense qu'elle est explosive, mais qu'il faut quand même pas oublier deux choses. La première, c'est que je pense beaucoup de Français sont d'accord avec cette réforme.
Dans Français qui sont prêts à travailler plus longtemps.
Mais dans tous les pays européens équivalents, vous avez un allongement de la durée du travail lié à l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, c'est pas une réforme qui est absurde. Il y a dans le système actuel de grandes inégalités avec les régimes spéciaux où vous avez des professions qui se retrouvent avec des avantages énormes par rapport à d'autres qui ne les ont pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que les syndicats se sont beaucoup décrédibilisés ces derniers temps. Parce que je suis désolé, lorsque vous avez quelques cégétistes qui bloquent le pays, les raffineries de pétrole, qui font couper l'électricité pour 120 000 de nos concitoyens qui n'ont pas d'électricité parce qu'il y a des querelles entre syndicats.
C'est quand même pas la faute de la CGT, la situation sociale du pays.
Si l'explosion sociale, elle aura lieu si la mobilisation de certains, l'élite du prolétariat, n'est-ce pas, les syndicats, entraîne l'adhésion des citoyens.
Mais vous savez que les plus grands mouvements, Michel, ne sont plus ceux qui sont initiés par les syndicats aujourd'hui. Les syndicats sont des suiveurs.
C'est vrai.
Malheureusement.
Ceci dit, donc moi je suis partagé. Je pense que les Français sont exaspérés. Je pense aussi que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, moi j'arrête pas de le dire, c'est pas démagogique, c'est pas du populisme. Mais j'arrête pas de dire que les chiffres officiels qui nous sont donnés sur l'inflation sont très en dessous de la réalité.
On dit qu'elle est à 6,2. Vous pensez qu'elle est largement au-delà?
Plus, mais enfin, vous et moi, on va faire nos courses.
Bien sûr.
Vous et moi, on achète. Vous et moi, on voit bien les prix des produits. Sans parler de la pénurie qu'il y a. Enfin, des manques de médicaments dans les pharmacies. Il y a plus de moutarde depuis maintenant 4 mois dans les... Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, si vous voulez, la situation, elle est vraiment beaucoup plus grave que ce que le gouvernement, dans une forme de méthode couée, essaye de nous faire croire. Et donc, cette exaspération, elle peut aussi être effectivement un facteur de déclenchement d'une explosion sociale.
Ce que nous dit Michel sur la réforme de retraite, en nous disant que les Français seraient prêts éventuellement à travailler plus longtemps parce qu'ils veulent peut-être sauver notre système par répartition, et ils se disent que ça passe par là, vu que notre système, c'est celui qui amène à travailler le moins longtemps si on le compare à d'autres pays européens. Mais vous pensez pour autant que les questions sensibles de pénibilité sont prises en compte par le gouvernement ou ils balayent ça un peu d'un revers de main? Parce que la vraie question, c'est travailler plus longtemps, d'accord, mais si c'est pour vivre un ou deux ans de sa retraite et mourir derrière parce qu'on a travaillé dur en tant que maçon, en tant que dans le BTP ou dans des métiers à difficulté physique ou même psychique, mentale, je pense aux fonctionnaires de police par exemple. Voilà, vous avez été un fonctionnaire de police. Il paraît à quel âge un fonctionnaire de police aujourd'hui?
Alors, justement, j'allais rebondir sur ce qu'a dit Michel.
C'est un régime spécial.
C'est un régime spécial, mais il faut bien expliquer ce que c'est que le régime spécial. C'est pas des privilèges. Le régime spécial, c'est partir avant. Un policier peut partir à 57 ans. Alors effectivement, on pourrait dire que c'est un avantage là où les gens partent à 62 ans.
Mais, sans décote à 57, sans décote.
Bah, il n'y a pas de décote, ça dépend quand
est-ce qu'il est. Avec sa retraite pleine.
Il y a une décote, il y a un calcul qui est fait, mais avec 75%, c'est le cas général.
Pour ceux qui nous écoutent, la décote, c'est pouvoir partir à la retraite avec une retraite qui est quand même, à un moment donné, un peu pénalisée par le manque d'années que vous auriez pu faire en plus. Donc là, à 57 ans, ils partent avec une retraite normale, on va dire.
Normale. Alors, je vais faire vite un retour en arrière. Le statut spécial dans la police, par exemple, c'est 47. On décide de leur mettre un statut spécial aux policiers parce que les CRS marseillais, ceux issus de la résistance, se mettaient en grève tout le temps et tapaient pas assez sur les ouvriers. Je vous la fais courte. Et donc, à l'époque, boum, on dit 47 statuts spéciaux. Il inclut quoi, le statut spécial? Il inclut interdiction du droit de grève, quand même des sous-citoyens, et aussi, vous travaillez matin, midi, soir, les récup, c'est pas, on n'est pas payé comme chez Ikea ou chez Darty, faut voir les heures de nuit, les week-ends, etc.
Donc, on rappelle qu'il y avait eu 20 millions d'heures supplémentaires qui n'étaient pas payées dans la rente de la police nationale il y a encore quelques mois.
Donc, vous avez donc ce statut spécial, ça englobe tout ça. Et donc, à la fin, vous allez expliquer un gardien de la paix, un policier qui toute sa vie a travaillé en horaire décalé, mais je pense aux douaniers, je pense aux conducteurs de train. Vous allez leur expliquer qu'ils vont travailler 2-3 ans de plus, mais ils seront usés. Vous prenez ce qu'on dit chez nous, un nuiteux, un policier qui travaille la nuit toute sa vie. Il est usé à 50 ans.
Pour vous, un policier aujourd'hui qui est sur la voie publique, qui travaille de nuit ou de jour, est-ce qu'il peut travailler jusqu'à 64 ans?
Mais non, c'est pas possible. On va faire le mettre dans les bureaux, parce qu'il pourra plus courir après un voleur à 60 ans. C'est pas possible, même à 55, même à 57 ans. C'est quand même des métiers particuliers. On peut pas. Il faut prendre en considération la pénibilité. Vous, c'est une réelle pénibilité. Mais je pense aux maçons. Hein. Je pense.
Bien sûr, tous les métiers pénibles. Pour vous, on va ouvrir l'année donc avec un sujet explosif.
De toute façon, les syndicats de police sont vent debout, mais pas par principe, hein, par réalité.
Autre sujet, la loi sur l'immigration, Michel. Gérald Darmanin donc va revenir. Alors, qu'en est-il là du calendrier, Lou?
Alors, mardi 6 décembre dernier, le gouvernement a présenté les grandes lignes de son nouveau projet de loi immigration à l'Assemblée nationale dans l'espoir de dégager un compromis délicat avec l'opposition sur ce sujet clivant et hautement inflammable. Pour info, Karim, on parle de 30 lois votées en 32 ans. Et après ce débat sans vote à l'Assemblée nationale, le texte, annoncé par Emmanuel Macron dès septembre 2022 et d'ores et déjà discuté au Sénat depuis le 13 septembre dernier, avant d'être transmis au Conseil d'État d'ici à la fin de l'année. Ensuite, le projet de loi sera officiellement présenté en Conseil des ministres début 2023 et les débats auront lieu à l'Assemblée nationale au printemps prochain.
Donc ça, c'est un sujet qui va se jouer au premier semestre 2023, Michel. Peut-on aborder le thème de l'immigration dans notre pays sans hystérie, de manière apaisée?
Ben, on va voir, on va bien voir. Je pense que ça va être très très difficile. Après, la méthode d'Emmanuel Macron, le « en même temps », d'être très centriste, de vouloir satisfaire et la gauche et la droite, on va le retrouver dans le projet de loi. C'est-à-dire qu'il y aura une dose de régularisation de sans-papiers qui travaillent, qui ont un contrat de travail.
Sur les métiers en tension.
Voilà, sur les métiers en tension. Et puis, il y aura une dose de renforcer les contrôles, l'expulsion des OQTF et ceux qui sont condamnés par la loi. Voilà, donc tout le monde devrait s'y retrouver et en fait tout le monde sera mécontent à mon avis. Moi je le dis et je le redis tout le temps. Le problème pour moi c'est pas l'immigration. Le problème c'est les Français, ceux des Français qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui ne respectent pas l'ordre public. Ça c'est le sujet. C'est ceux des Français, je dis bien, qui ne respectent. C'est pas la question de savoir d'où ils viennent, d'où ils, quelle est leur couleur de peau, etc. Donc focusser sur l'immigration, encore une fois je reviens aux chiffres de ceux qui ont été interpellés il y a deux jours suite au match France-Maroc, 90% d'entre eux étaient français. Donc, si vous voulez, français, ça ne veut pas dire immigré. Et c'est ça le sujet, c'est ceux qui, de nos concitoyens qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus la France, qui ne respectent pas l'ordre public, qui ne respectent pas les policiers. C'est ça qui est important de traiter et c'est pas de parler de l'immigration tous les quatre matins.
Michel Taube nous remet, j'ai envie de dire un peu, l'église au centre du village. L'église, on n'a pas de tabou. Et alors, même si on est laïque, même si on est d'autres confessions, c'est notre adage, c'est la manière dont on parle, donc l'église au milieu du village, en nous disant c'est pas l'immigration le problème. C'est ceux qui causent des troubles à l'ordre public. Et à cause de cela, on vient sur des sujets qu'on hystérise, donc en pointant du doigt des immigrés qui, souvent, dans la plupart des cas, travaillent, payent des cotisations, aiment la France. Donc, mais il y a des Français, issus de l'immigration ou pas, qui commettent des actes de délinquance. Et c'est sur cela qu'il faut qu'on mette nos efforts. Parce que cela, ils troublent la cohésion nationale de tous, quelles que soient nos origines, notre religion. Voilà ce message qu'on peut envoyer aussi au gouvernement pour l'année 2023. Aborder le sujet de cette manière-là, avec un sentiment de justice, de justesse quand vous abordez ce débat. Ne partez pas dans tous les sens, n'ouvrez pas la boîte de Pandore, ne laissez pas toutes les caricatures et les amalgames possibles. Donc on a besoin d'un débat précis, clair, limpide, c'est ce qu'on attend pour 2023. Petite pause, une nouvelle fois, il faut vivre sur Beurre FM. On a des stations qui s'ouvrent partout, donc on est en dynamique, donc la présidente, elle ne va pas dire non, donc à ceux qui veulent nous soutenir, soutenez Beurre FM, soutenez Beurre FM, qui est la radio de la diversité. J'aime cette expression, la radio de la diversité. La radio de la diversité républicaine. Ah, j'aime ça, quand on rajoute
diversité républicaine.
Petite pause et on revient.
Les engagés reviennent dans un instant.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Marie.
Qui, moi ?
Eh oui ! Aujourd'hui, pendant le top rayon, pour tout achat sur le rayon fruits et légumes, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé. Parfait pour les petits.
30% bon d'achat, c'est bon pour mes petites graines de champignons, ça.
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
J'ai fait des étés de génie.
Hey, Jérôme Anthony, une été de génie pour la déco et les jouets de Noël ?
Mais oui, allez chez Jiffy ! En ce moment, ils font 50% sur toute la déco de Noël et aussi 90% sur vraiment tous les jouets. Ça, c'est de la remise. Ah, j'aime Jiffy.
Remise en bon d'achat pour les clients VIP, conditions et durée de l'offre sur Jiffy.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'au 24 décembre, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 70% sur le lot de 38 capsules de lessive Skip 3 en 1, soit 12 centimes le lavage. Avec une offre pareille, lavez votre linge en mode économique.
Auchan, avec plaisir.
4,47€ les 38 capsules Skip 3 en 1. Cagnotte déduite. Prix payé en caisse 14,90€. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Nos hypermarchés sont exceptionnellement ouverts ce dimanche toute la journée. Voir sur Auchan.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Envie de découvrir le Grand Sud algérien et ses larges espaces?
Avec la coopérative de voyageurs Point Afrique Voyage, Janet est désormais accessible par vol direct depuis Paris en partenariat avec Air Algérie.
Offrez-vous un circuit inoubliable à moins de 4 heures depuis la France. En randonnée chamelière, en 4x4 ou en séjour, parcourez le désert de la Tadrarte jusqu'à l'oasis des Sandilaines avec une équipe de chameliers, cuisiniers et guides Touareg.
Point Afrique Voyage vous propose des départs tous les samedis de décembre à mars à partir de 790€ par personne seulement pour un séjour de 9 jours vol inclus.
Informations et réservations sur point-afrique.com et 04 75 53 23 83.
En partenariat avec Beurre FM.
Carrefour. Si je vous dis que pour un Noël extra à prix ordinaire, pour l'achat d'une bûche aux deux chocolats surgelés Carrefour Extra au prix exceptionnel de 6,59€, vous bénéficiez en plus de 10% de remise créditée sur votre carte Carrefour. Et c'est valable sur tous les produits Carrefour du catalogue festif. Et c'est jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour.
On a tous droit au meilleur.
425 grammes, soit 15,51€ le kilo, détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie marque distributeur.
Si vous vous offriez une escapade en Algérie pour découvrir le sud et ses grands espaces, Air Algérie lance Paris Janet par vol direct tous les samedis au départ de Charles de Gaulle à partir de 645€, bagages inclus. Rendez-vous vite sur airalgérie.dz ou dans votre agence de voyage la plus proche. Tarifs soumis à conditions, sous réserve de disponibilité. Air Algérie, voyager, explorer, s'émerveiller. Air Algérie est partenaire du tourisme en Algérie.
Carrefour. Si je vous dis saumon fumé.
Sœur de Blini, j'adore.
alors?
Et si je vous dis que pour un Noël extra à prix ordinaire, les 12 tranches de saumon fumé de Norvège Laberry sont au prix extraordinaire de 11,99€.
Avec plein de citrons dessus.
Et c'est dès demain et jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour.
On a tous droit au meilleur.
360 grammes, soit 33,31€ le kilo. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
One Shot Event et Philippe Delmas Organisation présente Yassar en tournée en France. Yassar, l'humoriste star marocain, présentera son premier spectacle solo, Weldenas, joué à guichet fermé partout au Maroc, où il raconte son histoire, celle d'avant son succès.
Qu'est-ce que vous voudriez dire de ma drie qui est allé? On te l'a dit, j'aime moi, Léa!
Il sera le 29 décembre à Lyon, à la Bourse du Travail, le 3 février au Zénith de Montpellier et le 29 avril au Casino de Paris. Première tournée en France de Yassar du 29 décembre 2022 au 29 avril 2023. Réservation Fnac et réseau habituel en partenariat avec Beurre FM.
Illy Cadeau, c'est LA carte cadeau multi-enseigne. Illy Cadeau, pour être sûr d'offrir ce qu'il faut. Illy Cadeau pour ceux qui s'y prennent maintenant et ceux qui attendent le dernier moment. Illy Cadeau pour l'attente Margot, votre ado et tous les Roberto, Lingo aussi, les Léo, Caro, Illy Cadeau, utilisable en magasin et en ligne. Rendez-vous vite sur illycadeau.com.
Illy Cadeau.
Vous aimez Beurre FM en FM? Vous l'aimerez encore plus en DAB+. Désormais, profitez de tous vos programmes en qualité numérique. Beurre FM déploie son réseau en DAB+ dans toute la France. Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Rouen, Toulon, Grenoble, Saint-Étienne, Orléans, Besançon. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Plus qu'une radio.
Boulanger.
Oh, tu sais ce que ça me rappelle, ça? Les chants de Noël de l'année dernière chez Tata Gigi.
Oh là là, m'en parle pas.
Parce que cette année, heureusement, grâce à Boulanger, ça devrait être un peu plus rock'n'roll.
Chez Boulanger, on est là pour un Noël inoubliable. Avec l'enceinte Bluetooth Marshall Stadmore 2 au prix exceptionnel de 249,99€ au lieu de 369,99€. Et jusqu'au 31 janvier, c'est satisfait ou échangé. Boulanger, si bien ensemble. Jusqu'au 31 décembre, 2 centimes d'éco-participation. Magasin ouvert ce dimanche. Conditions boulanger.com.
Intersport, motivation 125, Noël à moins 50%.
Ça y est, les cadeaux de Noël, c'est réglé.
Ouais, enfin, il reste encore ton frère et ma mère.
Bah, des Nike pour Léo, une polaire à moins 50% pour Annick.
Sérieux? T'économises sur le cadeau de ma mère?
Oh, ça va, on le dira pas.
Va falloir acheter mon silence.
Ok, je note. Une polaire en plus.
Avec Intersport, tout le monde sera gâté pour Noël. Du 13 au 18 décembre, votre deuxième produit Nike est à moins 50%.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de l'année.
Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Histoire d'or présente un Noël en or.
Ces boucles d'oreilles?
Ouais.
Cette bague peut-être?
Mmh.
Ah, et puis ce collier aussi.
Waouh, tu brilles de mille feux. Tu vas vraiment voler la vedette au sapin.
Pour les fêtes, faites-vous plaisir et illuminez vos proches. Découvrez tous nos bijoux dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux.
Un message de Léo d'Antibes. En cette fin d'année, je réaménage enfin ma salle de bain. Des bons plans?
Et comment, Léo? Fonce chez Castorama découvrir les meubles de salle de bain Calao. Des meubles vasques, des lave-mains, des rangements. En plus, en ce moment, tu as une remise de 20% sur toute la gamme.
Et fabriqué en France, s'il vous plaît.
En ce moment, chez Castorama, profitez d'une remise de 20% sur toute la gamme de meubles de salle de bain Calao. Mais aussi de bons plans et de promos dans tous les rayons. Vite, c'est seulement jusqu'au 2 janvier.
Castorama, changer nous fait avancer.
Hors promotion et commande en cours.
Nocibé. Do it.
Chez Nocibé, c'est déjà Noël. Trouvez dès maintenant des cadeaux qui laisseront à vos proches un souvenir merveilleux. Rendez-vous dans votre magasin Nocibé ou sur nocibé.fr pour trouver tous vos cadeaux.
Nocibé,
la beauté partagée. Click and collect en une heure seulement, voire conditions en magasin.
Grand frais.
Allô maman, je vais pas venir chercher mon pull de Noël cet après-midi. Hein. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un prosecco brut et fruité là, super rapport qualité-prix. Hein. Et maman, entre les fines bulles et les gros pulls, y a pas photo. Hein.
Et jusqu'à samedi chez Grand Frais, la bouteille de prosecco brut DOC Griffon de 75 centilitres est à 5,99€ si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais.
Le meilleur marché.
Soit 11,99€ le lot de 2, soit 7,99€ le litre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Midi. 10h midi.
Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
On est de retour dans Les Engagés, les amis, pour les 6 dernières minutes de notre match de ce vendredi sur Beurre FM, 100 ans additionnel, mon cher Charles, mon cher Michel. Donc, je vais tout de suite vous demander de terminer l'émission de manière positive. C'est un souhait que nous avons avec l'équipe qui m'entoure, Zora, Foudi, Lelou. On veut toujours terminer de manière positive. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, on faisait la personnalité de la semaine. C'est un parcours issu de la diversité dont on ne parle pas, le parcours des invisibles, et on mettait une femme ou un homme à l'honneur pour montrer que dans la société française, ben, ces femmes et ces hommes issus d'immigration trouvent leur place à des postes importants ou pas, et donc sont fiers de pouvoir être français. Là, on a une nouvelle rubrique que je lance et dont je vais vous demander effectivement de la nourrir. C'est la rubrique
le coup de cœur de la semaine.
Le coup de cœur de la semaine, c'est une note positive. Alors Charles, ton coup de cœur de la semaine, on demande à nos invités de partager avec nos auditeurs un coup de cœur littéraire, cinématographique, quel qu'il soit, de personnalité. Quel est ton coup de cœur cette semaine? Votre coup de cœur, Charles.
Ouais, Karim, ça va être un coup de cœur rétro. J'espère que Michel, j'en suis sûr, aura un coup de cœur très actuel. Hier, j'écoutais une chanson de Jacques Brel. Sur le merveilleux album, là, l'album bleu, c'était Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un soupir, le temps de l'ombre d'un désir, pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Je mets ça pour deux choses. La retraite, effectivement, ils étaient vieux avant que d'être, c'était un peu les paroles de la chanson. Et donc, effectivement, les retraites, ça va être, on en parlait tout à l'heure, explosif, parce que faire travailler notamment des gens beaucoup plus longtemps, et surtout pour les métiers pénibles, ça va être compliqué. Et surtout, j'ai envie de dire, engagez-vous. Il y a des partis politiques en France, républicains, de la gauche vers la droite, il faut exclure tout ce qui est extrême. Faites de la politique, je m'adresse aux jeunes, faites de la politique. Engagez-vous, même si vous vous trompez. Essayez d'avoir une culture politique, essayez de militer, essayez de vous engager dans les associations. C'est là où se situe le combat, pas ailleurs.
Jacques Brel, Jaurès, des figures emblématiques. Donc, que tu nous as fait revivre à l'instar de ce coup de cœur. Merci Charles. C'est important parce que c'est aussi le creuset des valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et des hommes qui portent aussi un logiciel universaliste. Tout le monde peut se retrouver dans ces valeurs-là. Et puis Jacques Brel, quel artiste. Alors, il nous a parlé d'un coup de cœur plus actuel, potentiellement, peut-être. Est-ce que vous êtes mis d'accord ou pas, tous les deux?
Alors là, Michel, vraiment, d'abord, moi j'adore Jacques Brel. Je crois que c'est mon chanteur préféré, donc je suis super content d'entendre son nom prononcé sur Beurre FM. Donc moi, je vais être beaucoup moins sexy que vous, mais je voulais saluer le fait que l'Union Européenne a décidé hier, après un an et demi de négociations, enfin c'est rentré dans le droit. Les grandes compagnies du numérique, Google, Facebook et les autres, vont enfin payer 15% d'impôts sur le bénéfice. C'était un combat qu'a mené Emmanuel Macron, il faut vraiment le saluer, et ça a enfin été coulé dans le marbre, j'ai envie de dire. Mais alors il faudra quand même attendre encore un an, parce que ça ne sera opérationnel que le 1er janvier 2024. Mais bon, enfin c'est fait. Donc c'est quand même un peu de justice.
C'est une plateforme qui échappait à l'impôt jusqu'à présent.
Exactement. Et là, ils vont devoir payer 15% sur les bénéfices. Bon, qu'est-ce que ça a été dur à obtenir? Qu'est-ce que ça a été lent? Mais bon, c'est quand même une mesure importante. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Donc là, c'est un peu passé sous les radars. Donc c'est quand même, pour moi, la bonne nouvelle de la semaine.
Il est à combien l'impôt sur les sociétés en moyenne au niveau européen? 15%?
Je pense qu'il est même un petit peu au-dessus. Donc, à mon avis, il ne paye pas autant d'impôts que payent des SARL et des petites entreprises comme nous, on peut en gérer. Donc, c'est encore loin d'être l'équité fiscale.
Mais c'est un premier pas,
voilà,
que,
mais c'est déjà un pas
que vous saluez, Michel.
Dans le bras de fer qu'il y a avec les géants du numérique. Il reste beaucoup à faire pour vis-à-vis d'eux, mais moi, je suis pour leur démantèlement, pour tout vous dire. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Américains qui sont pour le démantèlement de Google, Facebook et les autres, parce que c'est de tels mastodontes qu'ils commencent à avoir un pouvoir totalement excessif. Quand vous voyez un Elon Musk dont on ne peut pas être totalement sûr de la fiabilité intellectuelle, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire.
Donc plus de régulation, plus d'équité, plus de justice entre les entreprises classiques lambda et ces géants du numérique. C'était le coup de cœur de Michel avec l'Union européenne qui semble un peu se réveiller. On va suivre ça de près, donc une mesure qui devrait rentrer en vigueur en 2024. Lou, ton coup de cœur de la semaine à toi.
Alors moi Karim, il est un peu moins politique cette fois-ci ce coup de cœur, mais il est surtout très humain. J'avais envie de vous parler de l'association qui s'appelle T'as un ami. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Cette association, ce but c'est de considérer la solitude et d'accompagner les personnes dans le besoin en créant des binômes d'amitié. Une personne isolée, homme, femme, enfant, quel que soit son âge, son handicap ou sa situation, avec un ou une amie bénévole. Le but étant d'organiser des rencontres et des moments pour venir faire la lecture, discuter, jouer, faire des sorties ou des accompagnements pour des visites culturelles. Les interventions peuvent se faire en maison de retraite, à l'hôpital, en clinique, dans tout établissement social ou même au domicile de la personne. Je vous ai donc parlé de cette association, Karim, car on connaît tous une personne isolée où on a déjà tous connu ce sentiment de solitude. Et dans ces temps un petit peu compliqués, eh ben la bienveillance, le partage et l'altruisme, ça restera toujours les valeurs de base. Donc allez voir le travail de cette association, www.ta1ami.fr et sur leurs réseaux sociaux pour devenir bénévole ou même faire un don.
Merci Lou. C'est vrai qu'il y a des associations, l'Odienseun, qui font un travail remarquable, exceptionnel, qui tire, je veux dire, aussi l'humanité vers le haut, que ce soit des ONG, que ce soit des associations plus locales, le rôtissent le lien social. Donc c'est fondamentalement mon petit coup de cœur, c'est pour un joueur de foot, puisqu'on est à l'ère de la Coupe du Monde, c'est Cristiano Ronaldo, qui a terminé sa carrière en pleurs avec le Portugal qui s'est fait éliminer, ce fabuleux joueur qui pendant presque 20 ans a tenu le haut du pavé du plus haut niveau mondial de football, de Cristiano Ronaldo qui est un joueur fantastique, exceptionnel et qui me donne l'impression, même si je ne le connais pas, d'être un homme de cœur parce qu'il a beaucoup d'engagement lui aussi pour des causes humanitaires. Donc voilà, j'ai coup de chapeau à sa carrière et je pense qu'il aurait... J'aurais aimé qu'il mérite, qu'il termine avec une fin plus positive. Alors on va terminer cette émission, les amis, mais on peut pas ne pas la terminer avec une pensée pour cette famille qui a été touchée par les incendies, donc 10 morts, 5 enfants. Voilà, je vous propose d'avoir une pensée collective pour ces familles et pour les habitants de Vaux-en-Velin sur le son de Jacques Brel. Évoquer Charles Mendes. Bonne fin de semaine, bon week-end à vous. Excusez-moi, mais si je mets pas beaucoup d'énergie dans la voix pour terminer cette émission, c'est parce que le thème est sensible. Bon week-end, à la semaine prochaine, les amis. Au les cœurs.
Un teint de cendre. Oui, notre monsieur. Oui, notre bon maître. Pourquoi ont-ils Jaurès, pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse.
Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.